Mais ta tentation d'aujourd'hui est le Saint-Père précise. L'humanité est arrivée à un âge adulte où elle prétend se sauver elle-même. Elle n'a plus besoin de sauveur. Alors ça, c'est quand on voit ces 8 formes d'athéisme ou ces 7 grandes formes d'athéisme et cette parole du Saint-Père sur l'Église, donc sur les hommes qui sont dans l'Église. Réveillez-vous. Comprenez ce qui se passe. Il y a une méta-tentation plus forte que toutes les autres tentations. Il n'y a plus de place pour le Sauveur dans l'humanité, dans la culture des hommes d'aujourd'hui. Et c'est vrai, si vous prenez la laïcité poussée à l'extrême, il n'y a plus de place pour un sauveur. L'homme doit se sauver lui-même. Et il est capable de se sauver lui-même. Vous voyez, ceci c'est pour vous montrer combien aujourd'hui, j'en suis persuadé, aujourd'hui, la nécessité de la philosophie est plus grande que jamais. Autre raison. Vatican II demande à l'Église l'ouverture au monde. Or, l'ouverture au monde ne peut se faire que par la philosophie. L'ouverture au monde, c'est l'ouverture à l'homme. C'est connaître l'homme. Et connaître l'homme, non seulement le chrétien, mais l'homme tout court. Là encore, petite expérience. Années, je prêchais au Carmel de Limoges et la mère supérieure m'a dit: est-ce qu'à midi ça vous dérange pas, il y a des prêtres ouvriers qui viennent tous les mois et ça tombe justement demain, ils sont là 6, ils prennent leur repas et ils passent toute la journée ici au Carmel. Alors, je dis au contraire, je suis très heureux d'être avec eux. J'étais en dominicain donc je ne cachais pas mes couleurs. Et ils m'ont demandé tout de suite, alors qu'est-ce que vous faites? Je ne dis pas dans le civil, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, j'enseigne la philosophie à l'université de Fribourg. Alors, celui qui était à la tête, nettement, quelle philosophie, mon père? Alors, évidemment, je ne réponds pas. Je dis, mais pourquoi pour vous, il y a plusieurs philosophies? Il faut toujours faire ça. Quand on vous interroge, il faut renverser l'interrogation. Alors pour vous, il y a plusieurs philosophies. Alors il était gêné, finalement, il ne savait pas quoi répondre. Je l'aurais coincé. Alors, puisqu'il était gêné, je dis, mais vous, vous êtes prêtre ouvrier. Hein? Pourquoi? Pour connaître l'ouvrier, je présume. Parce que j'ai très bien connu le premier prêtre ouvrier. Alors là, tout de suite, hein, on garde à vous. C'est pour connaître l'ouvrier. Eh bien, moi, j'ai fait de la philosophie pour connaître l'homme. Et ça vous ferait beaucoup de bien de connaître l'homme. Parce que vous ne pouvez pas connaître l'ouvrier si vous ne connaissez pas l'homme. L'ouvrier est un homme. Et c'est ce qu'on doit rappeler tout le temps à l'ouvrier. Le travail doit être humain. Que le travail soit humain, il faut connaître ce que c'est que l'homme. Alors à ce moment-là, j'ai décliné mes activités en dehors de l'université. Vous voyez, les secrétaires des syndicats chrétiens en Suisse me demandent chaque année de passer 3 jours avec eux. Alors ça, j'étais tout à fait épaté. Protestants et catholiques, 3 jours avec eux pour faire de la philosophie avec eux. Pour leur rappeler qu'être un vrai secrétaire d'un syndicat chrétien, c'est de rappeler tout le temps qu'est-ce que c'est que l'homme et qu'est-ce que c'est que l'homme ouvrier. Mais qu'est-ce que c'est que l'homme, pas tout court l'ouvrier. Alors j'ai fait un petit cours de philosophie. C'était bien. Ils n'avaient pas préparé ça, ils venaient pour manger, mais là, ils sont reçus. Mais j'ai essayé de les intéresser. Et leur après, ils ont dit, mais ça a été très intéressant, cette philosophie. Je dis, mais je comprends. C'est pour ça que j'enseigne, autrement j'enseignerais pas. C'est très intéressant. Rechercher ce que c'est que l'homme. A ressenti tout de suite. Ainsi, on est des livres, on viendrait, je dis oui, je forcerais avec beaucoup de joie. Et puis après, au terme, je dis bien, vous voyez, la philosophie qui recherche l'homme, c'est la philosophie dont Thomas d'Aquin a cherché. Ah, vous attendiez que je dise que j'enseigne le thomisme. Eh bien, non, je n'enseigne pas le thomisme, puisque Thomas d'Aquin, c'est un théologien. Et aujourd'hui, il faut être des philosophes. Mais pour être un bon théologien, il faut être un philosophe. Mais Thomas d'Aquin avait comme devoir de faire de la théologie. Il a utilisé la philosophie. Il a utilisé la philosophie d'Aristote, qui est une philosophie qui recherche ce que c'est que l'homme. Voilà, la philosophie, c'est rechercher ce que c'est que l'homme. Et rechercher toutes les dimensions de l'homme et de la personne humaine. La philosophie, c'est rechercher ce que c'est que la personne humaine. Et si vous recherchez ça, vous voyez qu'il y a sept grandes dimensions de la personne humaine. C'est intéressant, sept dimensions. Et les sept athéismes sont là pour briser les sept dimensions de l'homme. Vous savez bien le chiffre de la bête? 6, 6, 6, c'est pas 7. 7, 7. Il y a un symbolisme des chiffres. 7, c'est la plénitude. Et 6, c'est tout proche de la plénitude.
Intéresse à l'homme, on s'intéresse à tous les hommes, parce que tous les hommes représentent
spécialiste du chien s'intéresse à tous les chiens. De tout petits chiens, minuscules. Il y en a tout petits aujourd'hui, ils sont délicieux. Hein. Tout petits chiens. Et puis il y a le gros chien. Le gros chien. Énorme. Moins délicieux. On se met un petit peu plus loin quand on le rencontre. Le chien de luxe, vous voyez, le chien de luxe. Et puis le chien de garde, toujours de service. C'est, alors si on s'intéresse à l'homme, on s'intéresse à toute cette variété extraordinaire. Et on devrait s'intéresser, vous voyez, à l'homme européen. L'homme européen, c'est un type d'homme particulier. Je me souviens que la première fois que j'avais été justement à New York, hein, aux États-Unis, je lui ai dit, c'est dommage qu'on ne peut pas transporter toute l'Europe là-bas. On reviendrait européen. Parce qu'on comprendrait ce que c'est que d'être européen. Toujours en comparaison. Et c'est vrai, on était là-bas et qu'on reste un certain temps là-bas. On est heureux d'en rencontrer un Hongrois, un Lituanien. Parce que ici on voit surtout la diversité. Je parle pas du coréen, parce que ça c'est différent. La diversité est visible. Mais on regarde, on voit la diversité quand on voit un russe. Ou un bulgare. Tandis que là-bas, on voyait le facteur commun. C'est vrai. L'homme a une belle diversité. Ceux qui sont venus de captivité, je me souviens, c'était une des paroles qui disait tous, de captivité qui avaient subi les camps les plus terribles, normalement ils auraient dû mourir, disaient, un animal n'aurait pas survécu, mais l'espèce humaine, c'est celle qui peut s'adapter le plus, et qui peut supporter le plus, ce qui est vrai. Mais c'est intéressant de regarder la personne humaine comme ça, sous cet aspect-là. Celui qui peut s'adapter de la manière la plus étonnante. Et c'est vrai, quand vous regardez le cheminement que vous avez fait depuis le premier moment de votre conception, ça intéresse le philosophe. Le premier moment de votre conception, quand ça va très mal, vous y pensez. Et puis le dernier moment de votre vie, la mort. Tout ce qu'on a vécu, mais c'est fou, c'est extraordinaire, tout ce que ça représente. Et en plus de ça, quand il y a des guerres, quand il y a des bouleversements, je crois que notre monde contemporain, le 20e siècle, c'est le siècle où il y a eu le plus de changements extérieurs et pas du culture. Je ne sais pas ce que diront les historiens. Quand vous regardez le début du siècle, et maintenant, regardez ça. Au point de vue vitesse, facile à comprendre. C'est extraordinaire. Tout ce qui a été inventé, tout ça modifie l'homme. Et l'homme reste le même. Est-ce que entre l'homme, fin du 20e siècle, qui est encore jeune, fin du 20e siècle, Et l'homme premier, les hommes premiers, sans vouloir toucher le premier, est-ce qu'il y a une modification substantielle? Bon, ne prenons pas très lointain, puisqu'on n'en sait rien, mais prenez le grec, un Platon, un Aristote. Rencontre Aristote dans la rue. Je crois qu'on se comprendrait. Rencontrer un Platon, je crois qu'on se comprendrait. Sur les choses essentielles. Évidemment, ils seraient très étonnés, point de vue rapidité des mouvements, quand ils verraient une voiture arriver, foncer à toute vitesse sur les yeux. Tiens, qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Il s'en fout. Il s'en fout. Est-ce qu'il pense encore ? Oui, c'est au fond. Cela que le philosophe doit penser. Toutes ces modifications que subit l'homme. Mais qu'est-ce que c'est que l'homme ? L'idéologie regarde le fruit de la pensée humaine et reste figé à ce fruit. Alors que le philosophe aime de voir toute cette variété, toute cette diversité, tout ce changement pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'homme. Vous voyez, je crois que c'est ça qui caractérise une philosophie réaliste. Recherche de la vérité sur l'homme. Recherche de toutes les dimensions de la personne humaine. Toutes les dimensions. Alors, une telle philosophie prend son point de départ dans l'expérience. Philosophie de l'expérience. Il y a un livre qui, il y a quelques années, vers l'an 50 et même avant, vers l'an 1930, quand je commençais à lire de la philosophie, qui était très intéressant et qui reste intéressant, du père Maréchal, au point de départ de la métaphysique. Tu restes beaucoup, beaucoup marqué, ça, d'une certaine manière, au point de départ de la métaphysique. Parce que ça m'a donné le souci, quand j'étudiais un philosophe. Et quand on enseigne la philosophie, il faut s'obliger à connaître chaque année un philosophe. Nouveau. On ne connaît pas tous les philosophes, c'est évident, mais il faut en connaître quand même un certain nombre. De rechercher tout de suite. Quel est son point de départ ? Intéressant, ça. Quel est le point de départ de tel philosophe ? Alors, on peut le faire très nettement quand il s'agit de la philosophie grecque, par exemple. Comme c'est un des aspects que j'ai dû enseigner à Fribourg, la philosophie grecque, je cherchais quel est le point de départ. Comment a commencé la philosophie ? Je ne dis pas la sagesse, mais la philosophie. Le premier philosophe de notre monde européen et pré-européen, Hésiode, 800 ans avant Jésus-Christ. Quand j'ai commencé la philosophie, on considérait Hésiode comme un poète. Et maintenant, on le considère comme un philosophe. C'est très intéressant de recevoir cette petite évolution, hein. Parce que la philosophie, la poésie a réintégré la philosophie. Alors que, à un moment donné, le rationalisme dominait tellement les poètes. Il n'y a que des gens qui cherchent rationnellement, qui sont des philosophes. Aujourd'hui, non. On considère que être poète, c'est être un homme. C'est intéressant de rencontrer un vrai poète. C'est intéressant. La haine chez les Grecs, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Alors il y avait de longues soirées. Et dans les longues soirées, on aime d'entendre des aèdes qui chantaient des poèmes, qui racontaient des tas d'histoires, mais bien, bien, avec amour. La haine, le chanteur, vous voyez, le point de vue liturgique, ceux qui chantent tout le temps. Hésiode, je crois que c'est le premier. Hésiode commence sa philosophie par les travaux et les jours. Ah, vous voyez, philosophie du travail. La philosophie du travail, ça a été le point de départ, réflexion sur la vie rurale d'un agriculteur qui donne de très bons conseils en éthique. et travail et l'éthique de la famille. Première, la philosophie commence par l'éthique de la famille. Quand tu te maries, donc vous voyez, c'est un sage. Quand tu te maries, il va donner un conseil. Quand tu te maries, et une paire de bœufs, et une femme qui ne soit pas le frelon de la ruche. Un bon conseil, vous voyez. Le frelon de la ruche, on sait ce que c'est. Hein. Il le sait très bien, lui, pratiquement, le frelon de la ruche. La ruche te détruit quand il y a un frelon dedans. C'est le frelon prend tout. Alors, on allait presque dire, vous voyez, quand tu te maries, et une femme qui puisse travailler. Les qualités dominantes de la femme qui doit travailler, la femme au travail. C'est très curieux. De l'irrésistible, c'est très intéressant. Et puis, une théogonie. Donc, tout de suite, le premier philosophe de notre philosophie européenne regarde l'homme dans sa transformation de l'univers par le travail. Et l'homme religieux, la théogonie. La théogonie, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Kénos, la jeunesse des dieux, l'Olympe des dieux, et Hésiode récolte toutes les traditions religieuses multiples pour essayer de mettre un tout petit peu d'ordre dans ces traditions religieuses. C'est bien le rôle du théologien, mettre un tout petit peu d'ordre à travers toutes ces traditions religieuses multiples et diverses. Il regarde comment on peut ordonner l'Olympe. C'est un livre extraordinairement intéressant, et puis chez les historiens d'aujourd'hui, surtout les historiens des traditions religieuses, c'est capital, puisqu'il a réuni tout ça. Mais c'est intéressant de voir que tout de suite la philosophie s'est intéressée à l'homme travailleur. Le travail étant la grande expérience de l'homme. Et ça, on ne peut pas nier. Et les psychologues sont d'accord. Un homme qui ne travaille plus, qui ne veut plus travailler, on ne sait plus quoi faire de lui. Quand vous savez travailler, ça va. Ça va. Parce qu'on pourra toujours hein, vous donner du travail et vous rendrez toujours utile. Mais quelqu'un qui ne travaille plus, un dilettante, le frelon dans la ruche, un dilettante. S'amuse tout le temps, qui ne travaille plus. C'est effrayant. Moi, ça m'intéresse beaucoup de voir que toute notre philosophie européenne a commencé de cette manière-là. Regardez ce qu'est l'homme, la femme, le foyer, la ferme. Et puis, l'attitude religieuse. Zeus, le dieu des dieux, le grand dieu Zeus, et tous les autres qu'on va organiser. Bon, c'est le point de départ. Hein. Ça a commencé comme ça. Donc le point de départ de la philosophie, notez ça, parce que c'est intéressant. Et puis après on choisit. Vous pouvez dire que le point de départ de la philosophie, c'est l'expérience du travail. On voit très bien ça. Pensez à Marx. Mais Hésiode n'est pas tout à fait Marx. Il est plus sage que Marx. Il est plus humain. Marx avait l'idéologie du travail. L'idéologie du travail, la praxis. Et puis, les traditions religieuses. C'est pas du tout la même chose. Hein. Les traditions religieuses demandent une expérience particulière. L'homme qui reconnaît qu'au-dessus de lui, il y a Zeus, le dieu des dieux. réalisme. Pas toujours, puisqu'il y a l'idéologie du travail. Et qui peut le maintenir. Et puis, le respect des traditions religieuses, qui maintient le réalisme par rapport au transcendant, par rapport à l'existence possible des dieux. Et là encore, pas toujours le réalisme, parce qu'il peut y avoir des idéologies religieuses ou anti-religieuses. Vous avez ensuite, parce que je regarde uniquement les points de départ différents, l'expérience du travail. Et on va ensuite voir ce que ça implique, cette expérience du travail. Vous avez comme philosophe tout à fait particulier, Parménide, philosophe grec. Là aussi, c'est Parménide. Le poème de Parménide devrait être le point de départ aussi de la philosophie. C'est l'inspiration liée à une révélation.
Simple,
deux points de départ tout à fait différents. Parce que l'inspiration, la révélation, c'est l'expérience interne. L'inspiration. Et vous aurez très vite, en regardant simplement le début de la philosophie grecque, vous avez comme ça toute une série de points de départ. L'expérience externe, le point de vue de l'opinion, on commence par l'opinion religieuse, les traditions, l'inspiration, l'expérience interne, l'intuition. il y a des philosophes qui idéologie athée, l'homme. Les philosophies qui aboutissent à affirmer l'existence de Dieu, donc Dieu, et qui saisissent le point de vue là, Parménide, les traditions religieuses qui aboutissent à Zeus. Non, c'est intéressant, mais je m'arrête ici uniquement au point de départ. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est toujours le point de départ qu'il faut connaître le mieux. C'est son point de départ. Si on fait de la philosophie, il faut comprendre quel est notre point de départ. Je dis parmi tous ces points de départ, il n'y en a aucun qui est vraiment philosophique. Alors ici, je passe avec le bulldozer de la critique. On va critiquer tous ces points de départ. Et puis, on n'en mettra aucun. Un seul qui sera le point de départ numéro 1. Mais ce point de départ numéro 1 n'exclut aucun autre. Mais les relativise. Les relativise, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas ce point de départ, je considérerai que je suis en recherche. Vous avez le droit de rechercher, vous avez le droit de chercher, à droite et à gauche. Mais c'est intéressant de voir la valeur de ces différents points de départ. Je regarde tout de suite le point de départ de l'opinion des hommes, c'est-à-dire la tradition. La tradition. C'est une tradition religieuse, une tradition artistique, une tradition de pensée, il y a une tradition. Vous voyez, constamment, on fait de la philosophie en disant « je vais étudier Descartes ». Et puis on le critique. On discute avec un philosophe, et on fait de la philosophie. On discute avec Hegel, on fait une thèse sur Hegel, on fait de la philosophie. Donc c'est l'opinion de Hegel sur tel ou tel problème qui m'intéresse. Donc ce point de départ, c'est la tradition. Je dis, eh bien, ce point de départ ne peut pas être le vrai point de départ de la philosophie. Il est très intéressant. Il ne peut pas être le vrai. Pourquoi ? Parce que le point de départ d'un autre, pour moi, c'est toujours l'opinion. Je ne touche pas le réel. Je fais la philosophie de tel. Mais est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il a une conception juste de l'homme? Donc, je ne peux pas m'arrêter à lui. Ça m'intéresse, ça me forme. Ça forme énormément. De regarder toute l'histoire de la pensée philosophique. Et ça ne peut pas être le vrai point de départ. Au point de vue philosophique, l'autorité, parce que c'est l'autorité, la tradition. Et la dernière des raisons, dit Thomas d'Aquin. Évidemment, quand je dis ça, je prends l'autorité de Thomas d'Aquin, donc vous voyez. Donc c'est la dernière des raisons. Mais c'est intéressant de voir que l'autorité en philosophie, c'est la dernière des raisons. Pourquoi ? Ah, je m'appuie sur un tuteur, un grand homme, et je suis à son ombre. C'est merveilleux au point de départ. On a tous fait ça, du moins j'espère. Et on fait tout ça dans toutes les recherches, au point de vue politique, au point de vue artistique. On a un modèle. Et ceux qui ne font pas ça, on dit, mais écoutez, vous n'arriverez jamais à rien. Ne soyez pas un autodidacte, quand même. Il vaut mieux prendre un sycomore et monter dessus pour mieux voir ce qui passe. Et la tradition, c'est le sycomore. On monte dessus. Sycomore de Zachée, vous savez, dans l'écriture, le sycomore de Zachée. Zachée était de petite taille. Pour voir Jésus, il monte sur un sycomore. Et malgré sa dignité, parce qu'il était très digne, Zachée, un homme très digne, et il n'hésite pas de le faire, en vue de la finalité. Si je veux connaître la vérité, je me sers de gens qui ont une certaine valeur. d'une certaine renommée dans tous les domaines, c'est comme ça. En science aussi, on fait ça. Partout. Et c'est pas bête, mais ce n'est pas le point de départ de ma philosophie. Parce que c'est toujours l'autorité. Donc, je me fie à quelqu'un. Et cette philosophie est basée par le fait même sur la foi. La foi humaine, pas la foi divine, mais je m'appuie sur l'autorité. Il y a des courants philosophiques qui sont comme ça. Vous voyez, une école, l'école thomiste, qui s'appuie sur une autorité. Thomas d'Aquin, Dixit, coup de chapeau, ça y est. Besoin de discuter, Thomas d'Aquin, Dixit. Saint Thomas dit ça. Allez, avancez. Vous n'allez pas être plus intelligent que lui, donc avancez. Il a recherché toute sa vie, donc avancez. Eh bien, ça, c'est très mauvais comme formation philosophique. Puisqu'on fera uniquement des gens qui répéteront. C'est très bon au point de départ. C'est très mauvais, je ne dis pas comme formation philosophique. Comme formation philosophique, ça peut être très bon. Mais pour la formation, il faut comprendre, il faut dépasser l'autorité au plan philosophique pour rejoindre la réalité. L'autorité est une certaine réalité. Ce n'est pas la réalité pour tout. Il faut dépasser ça. Vous voyez, c'est très important de comprendre que l'autorité a joué un rôle capital dans la recherche philosophique. Mais ça ne peut pas être le vrai point de départ. Alors, vous voyez, j'aime beaucoup Thomas d'Aquin, mais je suis beaucoup plus fidèle à Thomas d'Aquin en recherchant le vrai point de départ de la philosophie qu'en prenant Thomas d'Aquin comme point de départ de ma philosophie. La scolastique, décadente. Si Thomas d'Aquin a voulu à la fin de sa vie brûler ses œuvres, c'est peut-être parce qu'il a eu une prophétie, un regard prophétique sur ce qu'on fera de ses œuvres. Alors il a voulu brûler. C'est vrai, c'est pas du tout parce qu'il a voulu brûler. Et on comprend très bien ça. Parce que c'est terrible d'être comme un écran par rapport à la réalité. Les écrits. C'est un écran par rapport à la réalité. Si Thomas d'Aquin, lui, dit que le point de départ de la philosophie, c'est l'expérience. L'expérience au sens fort, l'expérience qui est l'expérience des sens externes. Et pas seulement l'expérience interne, c'est l'expérience des sens externes. Et de l'intelligence. Pour Thomas d'Aquin, c'est net. Et ce n'est pas lui. Ce n'est pas son opinion. Ce n'est pas ce qu'il dit. Puis-je prendre comme point de départ l'inspiration? Je dis non. Parce que l'inspiration reste toujours quelque chose de très subjectif. Vous voyez, je pourrais vous dire que en veillant un soir auprès d'un feu de bois, j'ai eu l'intuition du feu. Bel feu de camp, j'ai eu l'intuition du feu. Je dis, c'est merveilleux. Ah, je comprends bien. Tout s'achève dans le feu. C'est le feu qui est quelque chose de capital. Mais j'en ai eu l'intuition. C'est comme une espèce d'inspiration. On peut avoir une inspiration. C'est très important d'avoir des inspirations. C'est très important d'avoir des intuitions. Parce qu'on progresse. Mais je ne peux pas baser ma philosophie sur l'intuition. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de beaucoup trop personnel, subjectif, qui peut être très imaginaire. Or, ce que je cherche, c'est la vérité. Et la vérité, c'est d'être conforme à la réalité. C'est la vérité de l'homme que je cherche. C'est l'homme que je cherche. Et pour chercher ce que c'est que l'homme, je dois dépasser l'inspiration et l'intuition. Je ne les nie pas. Et je dirais que tout philosophe, vrai philosophe, a des intuitions. Tout vrai philosophe a des inspirations, c'est sûr. Comme les poètes, comme les artistes. Mais il faut que ces inspirations, ces intuitions soient vérifiées. Vous voyez, tout dégringole. La conscience dégarde. Pourquoi pas commencer par la conscience? La conscience présuppose toujours une expérience antérieure. Donc elle n'est pas première.
Introduction à la philosophie par le père Philippe Arimon, le 19 décembre 1992, premier cours.
Excusez le retard, mais on va le rattraper si vous voulez. On ne fera pas d'intercours. Alors on vous talonnera. On rattrapera le quart d'heure. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps dès le point de départ. Alors, j'explique un tout petit peu pour que nous puissions travailler ensemble. Il y a les cours. Quand dans les cours, il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous les notez. Indépendamment de vos notes, vous pouvez toujours le mettre sur ma table. Ou bien il y aura un frère qui pourra ramasser les différences. Et puis, on fera peut-être un cours spécial pour répondre aux questions. C'est toujours important, ça. Parce qu'il ne peut pas y avoir un dialogue comme chez les péripatéticiens. C'est qui dialoguer. Et c'est nécessaire au plan philosophique de pouvoir dialoguer. Étant donné que vous êtes à des niveaux très différents, je présume, depuis la Corée, je sais pas, qui est déjà très avancé, mais ça n'est rien qui est quand même toujours là, jusque ceux qui commencent la philosophie, ceux qui sont déjà habitués et qui viennent pour reprendre, parce que la philosophie, ça se reprend tout le temps. On n'a jamais terminé sa philosophie, une fois qu'on a commencé. Je ne dis pas que c'est des chemins sans issue, mais c'est presque ça. C'est plutôt des chemins éternels, des chemins indéfinis, des chemins qui conduisent vers l'absolu. C'est ça la philosophie, c'est des chemins qui conduisent vers l'absolu. Et quand on est sur un chemin qui conduit à l'absolu, on ne peut jamais dire qu'on y est. Parce que l'absolu sur la terre, on l'attend. On est saisi par lui, on ne possède pas. Jamais oublier ça, on cherche la vérité, mais on ne la possède pas. On la cherche, on a des petites lumières, même de grandes lumières, qui nous aident beaucoup, mais on la cherche tout le temps, indéfiniment. Et je vous affirme, je me prends comme exemple, je m'excuse de ça, mais ça département d'enseignement. Je fais de la philosophie depuis 1931. Donc ça, je suis le plus vieux là, abattable. Depuis 1931. D'abord comme étudiant, puis immédiatement après comme pour enseigner. Et on découvre tout le temps. C'est ça qui est merveilleux. Des choses qu'on n'avait pas très bien compris, qu'on a répétées, mais qu'on n'avait pas très bien compris. Parce qu'au début, on répète. Ça. Heureusement, du reste, comme ça, on a quelque chose à dire assez vite, parce qu'on répète, mais on n'a pas très bien compris. Parce que pour comprendre, il faut tout le temps revenir à notre expérience. Tout le temps. Il faut un contact direct avec le réel. Tant qu'il n'y a pas ce contact direct avec le réel, on est dans des idées. C'est très bien d'être dans des idées. C'est très bien d'avoir des idées. Mais très vite, on tombe dans une idéologie. Alors, c'est peut-être la première chose à voir ensemble. Enfin, donc, il y a les cours. Vous notez vos questions. C'est très important. Vous les mettez ici, si vous le voulez. Et puis, on fera, sans doute, un cours pour répondre aux questions. Parce que c'est important, c'est toujours intéressant d'entendre les interrogations de quelqu'un qui n'est pas un imbécile, puisque vous êtes tous ici, donc vous n'êtes pas des imbéciles, vous cherchez la vérité. Et chercher la vérité, ça montre qu'on est intelligent quand on cherche la vérité. Et puis il y a la vie conventuelle qui continue. Alors, je crois que pour les offices, vous êtes libre, évidemment, d'une liberté totale. Il faut bien vous dire ça. Autant que possible, on suit les cours parce qu'on est venu pour ça. Mais même là, si vous êtes fatigué, allez vous promener. Il y a un beau soleil, c'est tout le temps, tu vois, alors c'est magnifique. Alors c'est en pleine campagne, il y a la frontière de la Bourgogne, à la frontière, parce qu'il y avait encore des vignes ici. Se replanter. C'est la limite. Mais un peu plus loin, à Buxy, n'y allez pas trop, parce que ne reviendriez pas. À Buxy, vous avez là-bas, quand même, la fin de la Bourgogne. Des petits crus, fin de la Bourgogne. Que ça se passe dans un climat très, très fraternel. On est tous ici pour rechercher la vérité. C'est ça qu'on doit faire. La philosophie, c'est la recherche de la vérité. Je crois que s'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. C'est la recherche de la vérité. Alors, distinguons tout de suite, parce que c'est important, ce qu'est la philosophie, ce que sont les idéologies. Comme ça, on sait. Le fait même, la nécessité aujourd'hui plus que jamais de rechercher la vérité, parce qu'on est dans une telle confusion de toutes sortes, que c'est absolument nécessaire si on veut encore respirer. Vous savez bien, on parle beaucoup de pollution de la Méditerranée, pollution des villes, pollution de la ville de Mexico, ce qui paraît que c'est là où la pollution est la plus forte. Mais à Genève, on dit qu'elle tend à devenir très forte aussi. Et à Tokyo, elle est très forte. En Corée, on respire l'air libre. Mais au fond, la pollution, elle existe aujourd'hui un peu partout. Et il y a une pollution intellectuelle qui est pire. Vous voyez, on dit à Mexico que cette ville qui tend et qui grandit tout le temps et qui, au moment de l'an 2000, dit-on, sera une des plus grandes villes comme population et comme extension.
Même question.
La science est-elle pour l'homme ou l'homme est-il pour la science? Tant que vous n'êtes pas net là-dessus, c'est inutile les discussions que nous avons. Alors, ils ont dit ça poliment, mais avec fermeté. Personne n'a répondu. Mais, question philosophique, hein. Question philosophique, philosophique humaine, vous comprenez bien. Est-ce qu'on est en train de détruire la planète? Est-ce qu'on est en train de détruire l'humanité? Est-ce que nous montons, est-ce que nous descendons? Historiquement, ça m'intéresse toujours beaucoup de voir la montée. On arrive à un sommet, puis ordinairement ça dégringole. C'est quand même une question qu'on doit se poser de temps en temps. La première fois que j'étais en Amérique, aux États-Unis, je suis rencontré, c'était sur le Liberté. Hein. Donc on avait le temps de parler au moins, c'était pas en avion, c'est sur le Liberté. C'est le premier voyage de Liberté hein, après la guerre en Amérique. Alors ça avait l'avantage énorme, c'est qu'on avait 6 jours où tout le monde était en dehors de c'était une retraite sur le transat. J'étais le seul curé, donc il n'y avait pas de rivalité. Il y avait un orthodoxe qui était là. J'étais le seul curé, du reste on m'a salué tout à fait comme on me l'a dit. Le commissaire, le haut commissaire du transat est venu me trouver en disant « Vous êtes le curé du voyage et vous allez alors par le fait même, vous êtes, j'étais la classe évidemment de la moins chère, vous allez prendre votre repas dans toutes les classes pour que vous voyez bien, pour qu'on sache que vous êtes le curé de la... » dire très très bien. J'avais bien envie d'avoir des repas meilleurs de temps en temps que la dernière classe, mais j'acceptais puisqu'on me l'offrait gentiment. et lui chercher. Ça m'a beaucoup frappé. C'est vrai que quand on est plongé dans des idéologies, on ne peut plus voir la distinction. Et on ne sait plus voir la distinction. On a sur le dos, il faut bien se le dire, depuis 150 ans, on a 7 ou 8 formes d'idéologie athée qui sont nées de notre Europe. Et ça, c'est un phénomène philosophique tout à fait nouveau. Quand on regarde, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode, quand on regarde la philosophie européenne, le livre de Brun sur la philosophie européenne, je comprends très bien, et la philosophie pré-européenne, d'une certaine manière, la Grèce, quand on regarde l'encyclopédie des philosophes de Merleau-Ponty, un très beau livre, j'aurais dû vous l'amener, parce que c'est intéressant à voir, c'est pas toujours commode à se le procurer, c'est un très gros livre qui coûte cher. Comme j'ai dû en faire la recension, je l'ai gardé. Parce que il y a la photographie de tous les philosophes, même ceux qui sont morts. Vous voyez, c'est-à-dire la photographie au moins des bustes. C'est intéressant d'avoir une figure des philosophes comme ça. Plutôt que de les entendre uniquement, d'avoir comme ça un petit résumé. Et puis c'est fait avec intelligence. Cette encyclopédie. On voit que la philosophie est née de la sagesse. Avant la philosophie, il y a des sages. Comme il y a encore des sages. Dans les cultures très, très, très primitives, il y a les sages du village. Il y a les sages du pays. Thalès, un des premiers de la philosophie grecque, Milet, Thalès de Milet, c'est un sage. On sait très peu de choses de lui, mais on sait que c'est un sage. Vous voyez, la sagesse au point de vue du gouvernement, la sagesse au point de vue familial, la sagesse au point de vue pensée. Et très vite, je crois qu'à partir du jour où la philosophie s'est enseignée, on a distingué le sage et l'ami de la sagesse. Et le philosophe, c'est l'ami de la sagesse. Le mot philosophia, et non plus sophos. La sagesse et la philosophie. Mais c'est très net. Hein. La philosophie est en référence à sophia. Philosophia. L'ami de la sagesse. Et celui qui enseigne devrait être un sage, mais n'est pas toujours un sage. Et là, c'est pour ça que, humblement, il s'appelle philosophe, l'ami de la sagesse. Vous êtes tous des amis de la sagesse, puisque vous venez suivre une session de philosophie. La sagesse, on voit très bien ce que c'est que la sagesse. La sagesse, c'est ce qui permet à un homme de découvrir ce pourquoi il est fait. Sa finalité. Ce pourquoi il est fait. Comment il peut être bien heureux. Comment il peut être parfaitement lui-même. C'est pas seulement sa personne, mais une personne parfaitement développée dans un sens légitime, normal, c'est ça la sagesse, et qui peut l'enseigner aux autres, qui peut la communiquer aux autres. Le sage, normalement, communique sa sagesse. Et on a dans Platon et dans Aristote, il aurait fallu commencer par cela, deux descriptions de la sagesse. Dans le temps, je vous les lirai. C'est très intéressant. Parce qu'on voit là tout de suite le génie de Platon. philosophe, c'est l'ami de la sagesse. Si vous êtes ami de la sagesse, vous êtes philosophe. La philosophie, c'est la sagesse. Alors, il y en aurait des quantités qui diraient « Je suis pas encore. Hein. Je suis pas encore. » Tandis que l'ami de la sagesse, on peut l'être très vite. Très, très vite. Parce que si la sagesse, c'est quand même quelque chose de très grand. Et vous retrouvez la sagesse dans la Bible. Oh. Les livres sapiens y ont toute l'influence grecque sur la Bible. Ce sont tous les livres sapiensiaux. Et on parle de la sagesse. Il y a des choses étonnantes sur la sagesse. Ils sont très belles. Platon, Aristote, la Bible, c'est pas si mal. Et les trois parlent de la sagesse en montrant que c'est quelque chose de très très grand. Et que il n'y a que l'homme qui manque d'intelligence, qui ne cherche pas la sagesse. Mais celui qui cherche l'intelligence aime la sagesse. Alors on lit recherche de vérité et sagesse. On lit philosophie et recherche de la sagesse. Philosophe. Et ça, c'est resté pratiquement depuis pas si longtemps où on a remplacé le mot sagesse et philosophe par idéologue. Ça, c'est un changement. C'est un changement de nom, vous allez dire, ça n'a pas d'importance. Ah oui, ça dit beaucoup de choses. Sophia, sagesse. Philosophia, ami de la sagesse. Idéologue. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie? C'est le logos de l'idée. À la place de chercher ce qu'est l'homme et en vue de quoi est l'homme, on réfléchit sur les idées des hommes. On joue avec les idées. On s'amuse avec les idées et on ne cherche plus. Même si elles sont fausses, même si elles sont empoisonnées, chacun a le droit à ses idées. C'est quand même très curieux, ça. C'est un tournant très étonnant. Prenez simplement ça comme ça. Je dirais, c'est quand même très important de réfléchir sur ça. Là, je disais, je ne dis pas où, dans un public sélect, restreint et sélect, il y avait 15 personnes. D'exposer qu'est-ce que c'est que la philosophie. Et j'avais tout de suite commencé comme je vous fais avec vous. Distinguons bien philosophie et idéologie. Vous commencez à comprendre. Hein? La philosophie regarde l'homme et la finalité de l'homme. Si on est philosophe, c'est pour l'homme. Service de l'homme. Et le philosophe doit être grand serviteur de l'homme. Et le sage est serviteur de l'homme. Pour montrer l'homme dans toutes ses dimensions. C'est ça le philosophe. Il comprend que tout ce qu'il connaît doit aider et éclairer les hommes. L'idéologie, je crois, comprenez bien ce que je veux dire. Je crois que c'est l'idée portée au pinacle, au sommet. J'allais presque Mais, et l'homme est sacrifié pour l'idéologie. L'idéologie passe avant tout, c'est les idoles modernes. On ne construit plus beaucoup d'idoles de pierre et de bois. On construit des idéologies. Et ces idéologies s'appliquent d'une manière implacable. Là encore un petit fait, je n'ai pas la date exacte, mais ils avaient beaucoup impressionné. Je ne sais plus qui était au pouvoir à Moscou, qui était le grand pontife. Je ne sais plus. Peu importe. Et il y avait l'invitation des premiers de l'armée française qui devaient y aller. Alors, je connaissais un seul-là qui était invité. Et c'était du temps de Giscard pour la France. Et la France, Giscard avait décidé d'être le premier qui mette une gerbe de fleurs sur le mausolée de Lénine, reconnaissant par là qu'il était regardé comme un très grand homme. Et celui qui accompagnait Don Giscard, présenté le général de l'infanterie, de l'armée de terre, je veux dire, infanterie, cavalerie, puisqu'il était cavalier, m'avait dit, c'est très bien d'accompagner Giscard, mais vraiment accompagner Giscard au moment où, au nom de la France, il épousera sur le mausolée de Lénine cette gerbe de fleurs. assez impressionnant. Alors quand on pense que dans ces 150 années précédentes, il y a dans l'histoire de l'humanité, et je dis bien dans l'histoire de l'humanité, cette forme d'idéologie qui sont nées, et cette forme d'idéologie athée, c'est-à-dire où on proclame l'homme comme devant acquérir une autonomie absolue, le seul maître de sa vie. Sous cet aspect différent. Alors, j'ai dû étudier ça parce que à Fribourg, la partie spéciale, une des parties que j'étudiais spécialement, c'était le regard du philosophe sur l'absolu. Donc, l'idéologie athée représentait quelque chose d'impressionnant. Et c'est vrai, c'est quelque chose d'impressionnant d'étudier ça. D'étudier ça de près, de voir ce que ça représente. Et tout en étant philosophe, je suis croyant. Je suis dominicain, je cherche la vérité au point de vue chrétien. On ne peut pas ne pas s'empêcher de passer du domaine philosophique de temps en temps au domaine théologique en respectant bien la distinction. Je ne fais pas de la théologie en faisant de la philosophie. On verra tout à l'heure. Et je ne fais pas de philosophie quand je fais de la théologie. Parce que ça fait partie des confusions actuelles, ça. Des grosses confusions actuelles. Et je crois que c'est très grave. Vous voyez, Paul VI avait dit dans une petite audience auquel j'étais présent, avec des théologiens, il avait dit le plus grand mal pour l'Église d'aujourd'hui, c'est le fidéisme. Et le fidéisme, c'est la confusion du domaine de l'intelligence, de la recherche philosophique et de la foi. Il avait expliqué. On expliquera si on a le temps, une fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un phénomène au plan philosophique qui est assez net. L'idéologie athée. De sorte que un de mes amis qui est mort maintenant, qui avait été en captivité, et au retour de la captivité, vous savez bien, on a proclamé tous ceux qui revenaient de captivité. Je comprends du reste, c'était des héros d'une certaine manière, ceux qui étaient surtout dans des captivités où normalement ils n'auraient pas dû rentrer. Il était bon professeur de philosophie, on l'a nommé en Sorbonne. Il était un excellent chrétien. Il avait eu l'audace d'annoncer un de ses cours en disant le problème de Dieu. Alors le premier cours qu'il a eu en Sorbonne, il y a eu un chahut énorme de tous ceux qui étaient marxistes ou marxisants. Vous n'avez pas le droit de donner un cours sur Dieu. C'est confessionnel. Alors il a dit non. Dans la mesure où il pouvait parler, et comme il avait une forte gueule, et il pouvait parler, il a dit je vous défie de comprendre ce que la philosophie européenne qui existait avant les idéologies athées. Si vous ne regardez pas ce que c'est que le problème de Dieu, regardez Descartes, regardez Malebranche, regardez Leibniz, regardez Spinoza, regardez Bergson, et ainsi de suite. Et puis toute la philosophie grecque.
Aïe! Ah, c'est normal. Un peu de calme, quoi. Parce que le moment de la descente à la ligne du métro, on se bouscule et on écrase les pieds. Et on est en train d'écraser notre intelligence. Et personne ne dit aïe. On écrase notre intelligence en prétendant que la laïcité absolue, il y a une laïcité qui est bonne et une laïcité qui elle, ne veut absolument pas parler de ce que c'est que l'attitude religieuse, de la recherche de l'absolu, que les traditions religieuses appellent Dieu. Il y a un problème philosophique de l'absolu. Est-ce que l'homme est fait pour l'absolu? Ou est-ce que c'est lui l'absolu? Parce que ce qui est très curieux, c'est quand on supprime l'absolu, on exalte l'homme comme l'absolu. Feuerbach dit ça textuellement. L'infini, c'est l'homme. Et quand l'homme projette sur Dieu l'infini, c'est parce que il a une conscience mauvaise et triste, alors il projette sur Dieu. Et les idéologies athées, c'est l'exaltation de l'homme en le mutilant, c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'il faut le mutiler pour qu'il soit absolu. Donc il y a un problème à nos portes qui existe actuellement. Et on sait très bien que le marxisme n'est pas mort. On le saura de plus en plus. Qu'il continue de vivre. Même si au point de vue économique, il a une forte secousse. Et il y a d'autres formes d'athéisme, puisqu'il y en a sept, qui enveloppent toutes les sept dimensions de l'homme. Et toutes les sept dimensions de l'homme sont atteintes par ces sept formes d'athéisme. C'est très astucieux. Alors quand je réfléchis au point de vue théologique sur ces athéismes, je me dis, d'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est que ça? Et je me pose la question, et je vous la livre pour ceux qui sont chrétiens parmi vous, et qui font un peu de théologie, et qui réfléchissent. Sommes-nous en présence des antichrists? Toutes ces formes d'athéisme ne peuvent exister en fonction d'une culture chrétienne. Ils sont tous en opposition d'une culture chrétienne. Cela n'existe pas dans l'Inde. Le christianisme ayant poussé l'homme peut sortir que d'une culture chrétienne saine ne pourrait dire que d'une seule chose. Existe-t-il un absolu? Je ne l'ai pas encore découvert, mais certains le disent. Supprimer d'un seul trait toute une culture qui a duré 2000 ans. Supprimer d'un seul trait toute la pensée qui existe en Grèce depuis 2800 ans. En voyant une idéologie athée pour exalter l'homme, c'est rapide. Et je crois que la philosophie doit nous aider là à comprendre l'erreur des idéologies. Pour moi, le plus grand ennemi, c'est les idéologies. C'est l'orgueil latent. Je ne dis pas que tous les idéologues sont orgueilleux, attention. Mais je dis que l'idéologie est le fruit d'un orgueil latent, d'un homme qui veut être le nombril du monde. Peut-être le sommet de tout. Et l'homme croit arriver à ça. Vous voyez, alors ça correspond à ce que notre pape actuel, la première fois qu'il est venu à Paris, à Notre-Dame, voyant les évêques à huis clos, tous les évêques français, j'y étais pas. J'aurais aimé y être. Caché derrière un mur pour écouter ce que disait le saint. Comme j'y étais pas, je me suis précipité sur la documentation catholique, évidemment, à donner le discours du saint. Et le saint dit au